Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le morceau manquant de votre casse-tête. Le petit détail de plus à votre information. La valeur ajoutée à votre écoute. Son nom, Guillaume Lavoie.
Nous en parlions d'entrée de jeu. Cette semaine a commencé la Coupe du monde de soccer ou de football avec la FIFA qui se passe pas n'importe où cette fois-ci, mais bien sûr au Qatar, pays souvent problématique, très, très stratégique, dépendamment quel bout de la lorgnette vous le regardez. Pour essayer de faire le ménage dans tout ça, on a un invité avec nous qui a une expérience assez particulière. Il est spécialiste du mouvement olympique, mais surtout des grands rassemblements sportifs internationaux et un expert de la géopolitique sportive. Sylvain Leclerc, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Sylvain Leclerc. Je regardais un peu votre CV. Comment on fait pour devenir un expert de géopolitique sportive? C'est pas simple, ça.
Ben là, disons que j'ai toujours été un fan de sport et de politique, donc disons que les deux se marient bien ensemble. Les gens qui disent que le sport et la politique ne se marient pas, en fait, c'est une lubie, parce que les Jeux olympiques de l'Antiquité étaient un acte politique. Donc le sport et la politique sont attachés aux hanches depuis 3000 ans. Donc moi, c'est toujours un sujet qui m'a fasciné. J'ai travaillé dans le mouvement olympique, j'ai couvert les Jeux paralympiques, j'ai été travailler sur le sommet des G7, l'exposition universelle à Dubaï. Donc, au fil des années, j'ai à travers mes expériences à l'international développé cette sensibilité-là. Bon.
Et Dubaï, c'est tout près. Vous étiez un des voisins du Qatar là pendant votre dernier mandat. Faites-nous un peu le Qatar 101, qu'on s'y retrouve.
Qatar 101, c'est un tout petit pays. On dit que c'est 11, à peu près gros comme l'Estrie, la Montérégie, donc 11 000 km². C'est pas très gros. Pays qui a obtenu son indépendance en 1971. Auparavant, c'était un protectorat britannique. Donc, le Qatar, le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni sensiblement au début des années 90.
Ça veut dire que certains de nos auditeurs sont plus vieux que le pays lui-même.
Sûrement.
Alors, c'est quand même intéressant. Et, bien sûr, population et output, parce que ce pays-là est probablement un des plus gros producteurs de gaz naturel au monde.
25% de la production mondiale de gaz GNL, gaz naturel liquéfié, vient du Qatar. Exact, aussi une très grande production de pétrole, et la place par rapport au gaz naturel liquéfié va augmenter. On dit que dans 5 ans, ça sera peut-être 40% de la production mondiale, des exportations mondiales qui viendront de là. Donc, géopolitiquement parlant, d'un côté l'Iran, et de l'autre côté l'Arabie Saoudite, et dans le milieu, il y a un grain de maïs. Là,
donc, c'est le nain de population entre deux géants, mais quand même, il fait partie des très grands producteurs d'énergie. On peut imaginer dans le contexte de la guerre Ukraine-Russie qu'il est doublement important.
Exactement.
Bon, là, il y a un enjeu parce qu'on entend peut-être, on pourrait appeler ça c'est comme deux rails de chemin de fer d'argumentation. Les deux sont vrais. Puis, on sent, est-ce qu'il y a un enjeu de cohérence là-dedans? Est-ce qu'on fait affaire avec un pays comme le Qatar, qui au niveau des droits humains fait partie presque de la liste des infréquentables avec un système d'esclavage moderne, mais en même temps, il faut faire affaire avec le Qatar, ne serait-ce que pour aider l'Ukraine à se débarrasser du joug russe. Expliquez-nous un peu dans quel contexte la Coupe du monde vient s'inscrire.
Ben en fait, depuis 2006 que le Qatar se lance dans les grands événements sportifs. Donc en 2006, donc la Coupe du monde, c'est pas la première fois. Depuis 2021, un Grand Prix de Formule 1 au Qatar. En 2019, c'était les championnats du monde d'athlétisme. En 2006, c'était les Jeux asiatiques. Donc le sport fait partie de la stratégie du Qatar pour se positionner. Le Qatar veut être vu comme un médiateur international et utilise le sport comme outil, ce qu'on appelle le soft power, pour se positionner comme médiateur fréquentable.
Donc, il veut entrer dans la cour des grands, prendre des événements pour les grands. Mais il y a quelque chose où on disait, est-ce que c'est une bonne stratégie de boycotter le Qatar, par exemple, on a entendu ces choses-là, parce qu'on pourrait imaginer que dans la tête des Qataris, c'est, ben, si on est assez gentil pour faire affaire avec vous pour avoir du gaz naturel, est-ce qu'on peut aussi avoir du soccer? C'est un peu ça, là, l'enjeu.
À ce moment-là, le cas de l'Allemagne est exactement à cet effet-là, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères du Qatar qui a interpellé l'Allemagne en disant, écoutez, l'année dernière, on vous a aidé à sortir vos ressortissants d'Afghanistan. Le Qatar a été un interlocuteur pour vous aider à faire ça. Le Qatar, vous signez avec nous des ententes énergétiques pour importer du gaz naturel liquéfié, parce que d'un côté, l'Allemagne essaie de se départir de sa dépendance à la Russie sur les énergies. Et de l'autre côté, ils se font dire, bon, nous, on signe des ententes avec vous. Nous, on ressort vos ressortissants du pays, mais on n'est pas assez bon pour organiser un tournoi de soccer. Donc là, le Qatar versus l'Allemagne parle tout simplement d'un double standard.
Puis là, c'est un peu l'espèce d'incohérence avec laquelle tous les pays ou beaucoup de pays sont pris. Mais il y a un enjeu qui, peut-être, on avait sous-estimé, c'est-à-dire que oui, le Qatar se met sur la scène mondiale, veut montrer tous ses beaux côtés, mais en même temps, peut-être que c'est à cause de ça, le fait qu'ils reçoivent la FIFA, on n'a jamais autant parlé des coches mal taillées du Qatar, de ces drames qu'ils font vivre à presque 90% de la population qui est immigrante là-bas. Alors, parlez-nous un peu de ces coches mal taillées qui, malgré la volonté initiale des Qataris, se retrouvent au devant de la scène.
Donc là, on se retrouve dans un beau cas de figure où un pays veut effectivement avoir beaucoup de visibilité avec un événement comme ça, mais en même temps, si tu veux beaucoup de visibilité, ben ça expose tes vulnérabilités. Donc l'un va pas sans l'autre. Les deux sont liés aux hanches, comme je disais tout à l'heure. Et l'autre aspect par rapport au Qatar, c'est que pour l'obtention de la Coupe du Monde, le vote remonte à 2010. Donc la Russie a organisé la Coupe du Monde en 2018, avait obtenu le vote en 2010, donc 8 ans. Là, le Qatar, c'est 12 ans, donc ça fait 12 ans qu'on parle de ça. Donc c'est 4 ans de visibilité de plus, mais ça fait 4 ans de plus où on tape sur le clou, en fait. Donc finalement, c'est vraiment une arme à double tranchant qui, pour le moment, se retourne un peu contre le pays.
Sans être complaisant ou naïf, est-ce que le regard très critique qui est posé à travers le monde sur le Qatar, sur son système d'esclavage moderne, est-ce que ça a une influence quelconque sur la politique au sein du Qatar?
Sûrement, mais en fait, je dirais que par rapport à toutes les questions dont on débat présentement, quand ils ont soumis leur candidature et qu'ils ont remporté le... Bon, on peut douter, on peut regarder le documentaire FIFA Uncovered qui vient de sortir sur Netflix. Vous allez apprendre toutes les ramifications du vote en question. En fait, le Qatar est arrivé de manière très naïve dans tout ce dossier-là en se disant, ben, on a une candidature, on a gagné, donc tout est beau. Non. Donc, en fait, ils ont sous-estimé qu'il y aurait un tel tsunami. Donc, ils ont vraiment été pris de court. Est-ce que c'est une erreur stratégique? Est-ce que c'est vraiment une erreur de jeunesse?
Peut-être on peut mettre ça dans le cas des erreurs de jeunesse, sans être péjoratif, quand vous êtes un pays qui a moins de 2 générations, à peu près. Peut-être qu'à ce moment-là, on se rend compte que pour être dans la cour des grands, suffit pas d'avoir de l'argent plein ses poches.
Exactement.
Mais ça exige aussi des comportements, des valeurs qui sont autres que celles que l'on voit maintenant. Sylvain Leclerc, je rappelle, vous êtes un expert de géopolitique sportive. Je pense que vous avez inventé un nouveau métier, mais c'est un beau métier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci pour l'invitation.
Au plaisir.